Radio France Internationale, il est 14h30 à Paris, midi et demi, en temps universel. Et c'est Afrique Midi avec vous, Nicolas Sur. Bonjour.
Bonjour Marion Cazeneuve. Bonjour à toutes et à tous. La fin d'une semaine de dialogue national au Sénégal. Plusieurs centaines de représentants des partis de la société civile ou des mouvements religieux ont discuté des réformes du système politique avec en toile de fond la question du renforcement du fonctionnement démocratique de l'État. Mounaï Cissé, président de l'ONG 3D et membre de la société civile, participait à ce dialogue. Il est notre invité. En Côte d'Ivoire, la publication de la liste électorale définitive, l'opposant Tidjane Thiam a bien été radié. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne la nuit dernière par la commission électorale indépendante. Voilà 8 mois qu'il avait disparu au Tchad. L'opposant Robert Gam est rentré chez lui cette nuit. Il avait succédé à Yaya Dillo, tué au cours d'un assaut de l'armée, à la tête du Parti Socialiste Sans Frontières. Clap de fin au Sénégal pour le dialogue national sur le système politique. Les partis politiques, pouvoir et opposition, ainsi que des membres de la société civile ont débattu pendant une semaine des mesures à prendre pour consolider la démocratie au Sénégal sur le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais aussi les droits et les libertés. Les Elisa Westerhoff, quelques 800 participants ont participé et le consensus est difficile à trouver.
Oui, et pour preuve, la cérémonie de clôture a commencé avec un peu de retard ici, le temps de tenter de lisser les derniers différends. Parmi les points sur lesquels tout le monde est tombé d'accord, l'interdiction de cumuler la fonction de chef de parti et de chef de l'État. Un oui de principe à l'adoption d'un bulletin de vote unique pour simplifier la vie des électeurs. Le fait de donner le droit de vote aussi aux détenus, tout cela sous réserve d'une étude de faisabilité tout de même. Les participants sont aussi tombés d'accord sur le principe de donner un statut à l'opposition. Échec, par contre, sur la désignation d'un chef de l'opposition. Pas de consensus non plus sur une possible réduction du nombre de partis politiques. 386 en tout au Sénégal pour 18 millions d'habitants. Certains craignent que cela pourrait enfreindre la liberté d'association. Difficile de s'entendre aussi sur les questions des droits et libertés publiques. Les participants ne se sont pas mis d'accord pour demander l'abrogation des articles controversés du Code pénal qui autorisent des poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État et offense au chef de l'État. Des articles de loi qui ont servi dans le passé à politiser la justice. Consensus à minima donc pour un dialogue politique boycotté par le principal parti de l'opposition, l'APR de Macky Sall, même si certains membres ont participé à titre individuel.
Alors, quelle est la prochaine étape désormais ?
Eh bien, soumettre ses recommandations au président de la République qui s'est engagé à faire appliquer tous les points de consensus. Et c'est une des grandes inquiétudes formulées ici, celle de voir ses recommandations appliquées, sachant qu'aucune de celles formulées il y a un an ne l'ont encore été.
Les Elisa Westerhoff en direct du centre de conférence de Diam Nadio. Dans 10 minutes, on appelle Mundiaï Cissé, président de l'ONG 3D, qui participait à ce dialogue. Il est notre invité. La politique en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a bien été radié de la liste électorale définitive. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne cette nuit par la commission électorale indépendante. Benoît Almeras, vous êtes en direct d'Abidjan. La CEI a donc appliqué la décision de justice ordonnant la radiation de Tidjane Thiam.
Oui, et pour comprendre comment on en est arrivé là, Nicolas, il faut revenir à la Constitution ici. Elle impose au candidat à la présidentielle d'être exclusivement ivoirien. Tidjane Thiam avait la nationalité française depuis 1987. Il n'en a été libéré que le 20 mars dernier, soit 4 mois après la dernière révision de la liste électorale. Des recours ont donc contesté son inscription. Fin avril, la justice a estimé que Tidjane Thiam n'était plus ivoirien lors de son enrôlement en 2022, décision fondée sur le code de la nationalité. Le texte précise que tout ivoirien majeur perd sa nationalité quand il acquiert volontairement une nationalité étrangère. La décision ne peut pas faire l'objet d'un recours et s'impose à la commission électorale, la CEI, qui juge par ailleurs impossible de réviser de nouveau le fichier électoral avant la présidentielle fin octobre. Tidjane Thiam se retrouve donc aujourd'hui inéligible.
La radiation de Tidjane Thiam est donc officialisée. Comment réagit le principal intéressé?
Et le président du PDCI est en Europe depuis 2 mois, mais dans un communiqué aujourd'hui, il dénonce son élimination de la liste électorale qui constitue, selon lui, un exemple de dérive de la Côte d'Ivoire vers une absence totale de démocratie. Tidiane Thiam qui a annoncé hier saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies dont les avis ne sont pas contraignants. Pour l'opposant, plusieurs décisions judiciaires ivoiriennes sont attentatoires à ses droits civils et politiques, Nicolas.
Benoît Almeyras en direct d'Abidjan. Autre opposant absent de la liste électorale, l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ex-premier ministre en exil Guillaume Soro et l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blégoudé, tout droit sont radiés depuis leur condamnation respective par la justice ivoirienne. Au Mali, le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, a diffusé cette nuit de nouvelles images et un nouveau bilan de l'attaque du camp militaire de Boulikessi dans la région de Douenza. C'était dimanche. Le GNIM revendique plus de 100 militaires maliens tués, 22 autres capturés et retenus en otage. Des chiffres, David Bachet, que vous avez pu recouper auprès de sources locales.
Le nombre de morts est intolérable, commente une source sécuritaire malienne. La pression n'a jamais été aussi forte. Cette source confirme le bilan du GNIM, plus de 100 militaires tués à Boulikessi. Au lendemain de l'attaque, cette même source évoquait déjà plus de 90 corps ramassés. Depuis, d'autres dépouilles ont été retrouvées aux alentours du camp. Des supplétifs russes de Wagner figureraient parmi les victimes, selon plusieurs sources sécuritaires et civiles maliennes. Wagner a habituellement des hommes stationnés à Boulikessi et patrouille régulièrement dans la zone. Aucun corps de mercenaires russes n'a toutefois été exhibé dans les publications du GNIM, qui a égrené ces derniers jours des vidéos effroyables.
Les djihadistes affirment également détenir 22 soldats maliens capturés dimanche.
Et des vidéos montrent ces soldats retenus en otage par petits groupes. Ils s'ajoutent aux autres militaires déjà capturés lors de précédentes attaques, dont le nombre précis n'est pas connu. Le GNIM détient aussi, parfois depuis des années, plusieurs dizaines de civils. Administrateurs de l'État, humanitaires, professeurs ou encore habitants de villages refusant de conclure des accords locaux. Le groupe djihadiste diffuse enfin des images du butin pléthorique récupéré à Boulikessi, des armes et des munitions notamment, mais aussi plusieurs véhicules. Devant l'ampleur de la tragédie, l'armée malienne avait reconnu dimanche l'attaque de Boulikessi et la mort de soldats ayant combattu jusqu'à leur dernier souffle, mais sans donner aucun bilan. Sollicité par RFI, la communication de l'état-major n'a pas donné suite.
À Bamako, le procès de l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés a repris hier et se poursuit en ce moment même. Lundi, l'ex-ministre de l'économie Boiré-Philly Sissoko, qui comparait parmi neuf autres accusés, l'ancienne ministre s'était écroulée en pleine audience. Âgée de près de 70 ans et souffrant de plusieurs pathologies, elle s'efforce désormais de tenir, selon les mots de son avocat, qui demeure inquiet pour la suite de la procédure, mais qui assure que sa cliente veut en finir et prouver son innocence. Il était porté disparu depuis 8 mois au Tchad, l'opposant Robert Gam, secrétaire général du Parti Socialiste Sans Frontières, qui avait succédé après sa mort à Yaya Diallo, est réapparu cette nuit. Esdras Dikoumana, selon ses proches, Robert Gam a été relâché par ceux qui le détenaient, à savoir l'Agence Nationale de Sécurité de l'État.
Oui, Nicolas, toute la maison dormait lorsque, sous le coup de 2h du matin, un véhicule s'arrête devant la concession où habite la famille Robert Gam. L'opposant tchadien sort et frappe sur la porte de la maison. C'est la surprise et la joie pour les siens qui ne s'y attendaient pas. En effet, Robert Gam était introuvable depuis le 20 septembre dernier, lorsqu'il avait été enlevé en plein jour dans la capitale tchadienne alors qu'il sortait des locaux de son parti. Le PSF avait tout de suite accusé l'ANS d'être derrière cette disparition en expliquant qu'il était dans le collimateur des services secrets depuis la mort de Yaya Diallo, un farouche opposant tué d'une balle dans la tête lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée 2 mois avant la présidentielle de mai 2024. Son parti, la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme étaient montés au créneau en dénonçant une détention arbitraire et un déni de justice, mais rien à faire. Ni la NCE, ni le gouvernement tchadien, aucune autorité n'a jamais accepté de commenter cette disparition jusqu'à ce jour. Robert Gam était détenu dans une cellule secrète de la NCE dans des conditions difficiles, sans aération, sans ligne de visite depuis 8 mois, mais il n'a pas été torturé physiquement, décrit un de ses proches qui cite l'opposant.
En République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel annonce son interdiction d'interdire aux médias de diffuser ou relayer toute communication du PPRD, le parti de Joseph Kabila, de ses membres ou de l'ancien président lui-même. Cette mesure est prise pour 90 jours. Elle concerne tous les médias, publics ou privés, les plateformes numériques ou les réseaux sociaux, sous peine de sanctions. Écoutez les explications de Christian Bossembe, le président du CESAC.
Alors, ce qui est interdit ici pour l'instant, c'est d'abord d'accorder effectivement la parole au cadre du PPRD. Parce qu'il y a une décision du gouvernement qui interdit formellement les activités du parti. Donc, lorsque vous recevez un cadre du PPRD pour parler autre chose que les activités de leur parti politique, vous n'avez pas de problème. Si le cadre du PPRD vient de réfléchir l'état, le fonctionnement, il n'y a aucun problème. Mais lorsque le cadre du PPRD vient parler de leur parti politique, viennent parler de cette instruction qui est en cours, viennent parler de leur autorité morale dans le sens de les défier ou de faire l'apologie de ce que leur autorité morale est en train de faire à l'est de la République, là, le média s'expose. Donc, c'est véritablement la nuance. Personne n'a été interdit de parler à la télé. Nous n'avons muselé personne. Seulement, nous avons dit, puisqu'il y a une décision du gouvernement qui sanctionne, sinon suspend les activités d'un parti politique, il n'est que logique de le faire suivre dans le média.
Censure dénonce déjà des membres du PPRD. L'organisation Reporters sans frontières fait part, elle aussi, de son inquiétude, d'autant que ce n'est pas la première atteinte à la liberté d'informer au Congo. Le directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières, Sadibou Marong.
Nous estimons fondamentalement que c'est une décision qui enfreint les standards en matière d'équilibre de l'information. Nous sommes également préoccupés par cette tendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC à interdire de manière assez discrétionnaire. On a vu par exemple que depuis avril 2024 pratiquement, le CESAC avait commencé à interdire aux médias de diffuser des informations en rapport avec la situation à l'Est sans se référer aux sources officielles. Et cela a continué jusqu'en 2025. Aussi en janvier, le Conseil avait menacé de suspension des médias internationaux. Et ce n'est pas son rôle un peu d'interdire de manière tout azimut, sans même développer un peu les concertations nécessaires. Nous voyons le développement d'une censure, et cette censure-là est une censure administrative, parce que le Conseil peut avoir le droit un peu de fermer des médias, de suspendre tel ou tel média, et cela, tant que c'est fait de manière très disproportionnée, cela nous pose problème du point de vue de l'approche.
Des propos recueillis par Patient Ligodi. Il est 13h42 à Kinshasa.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les ONG libyennes de défense des droits de l'homme dénoncent les conditions de détention épouvantables de 20 000 migrants. Les 10 ans de la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes les plus graves perpétrés depuis 2003 en Centrafrique. Et puis du football, nous prendrons des nouvelles des Léopards, la sélection congolaise qui est en stage en France. Les ONG libyennes de défense des droits de l'homme brisent le silence. 20 000 migrants sont aujourd'hui détenus dans des centres de détention dans le pays et continuent à subir toutes sortes d'abus. Torture, travail forcé, extorsion et conditions d'emprisonnement intolérables dans l'indifférence du gouvernement libyen qui est sponsorisé par l'Union européenne pour retenir les migrants. Ouda Ibrahim.
Ahmad Lamloum a recueilli les témoignages de migrants interceptés en mer et dans le désert par les gardes frontières. Il visite régulièrement les centres de rétention. Ce chercheur qui préside le centre d'études de Benghazi sur les migrants et les réfugiés dénonce une corruption généralisée au sein des services sécuritaires.
L'ensemble des appareils sécuritaires ont compris que l'immigration leur ramène beaucoup d'argent. Ces appareils sont en concurrence entre eux, par exemple pour la gestion des migrants. Et il y a au moins 6 appareils sécuritaires qui interviennent dans ce dossier.
Ahmad Lamloum raconte les confiscations des téléphones portables et de l'argent des migrants dès qu'ils sont interceptés en mer par les gardes-côtes, alors que les navires utilisés sont financés par l'Union européenne. Les exactions et les vols des migrants en mer sont devenus la norme, explique le chercheur, et les autorités libyennes et européennes ferment les yeux.
Le ministre de l'Intérieur à Tripoli est lui-même impliqué dans cette affaire. Il sait très bien ce qu'il se passe dans les centres de rétention qu'il est censé gérer. C'est lui le premier responsable des gardes-côtes libyens et des gardes-frontières. C'est une première qu'un ministère de l'Intérieur intervienne pour garder les frontières alors que c'est du ressort de l'armée.
Malgré ces exactions, selon l'OIM, le nombre de migrants en Libye a augmenté de 4% depuis le début de l'année.
En Centrafrique, la Cour pénale spéciale a 10 ans d'existence. Initiée le 3 juin 2015 lors du forum de Bangui, la CPS avait lancé ses enquêtes 3 ans plus tard. Ce tribunal hybride est composé de magistrats nationaux et internationaux. Ils ont pour mission de juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis 2003. Rolf-Steve Domialeux.
Considérée comme un symbole d'espoir en Centrafrique, la création de la Cour pénale spéciale répondait en 2015 à un appel en faveur de la lutte contre l'impunité dans le pays. 10 ans après, André-Michel Luanga, son président, présente les grandes réalisations de la CPS.
Nous avons déjà organisé 3 procès, dont le tout premier est arrivé à terme définitivement, où il y a eu même déjà des réparations. Les 2 autres, à savoir Ndélé 1 et Ndélé 2, sont presque bouclés.
Si 3 personnes ont été condamnées définitivement et 7 en première instance, des victimes remettent en cause l'efficacité de la Cour. Étienne Oumba est fondateur de l'association des victimes unies de Centrafrique AVUC.
Depuis 10 ans, les dossiers ne bougent pas. Cette juridiction ne juge que les petits soldats, mais les gros poissons sont en liberté. Ce que nous constatons, c'est que les activités de la CPS sont influencées par les autorités centrafricaines.
Des critiques que balaie André-Michel Luanga.
Depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu des instructions ou du moins c'est des pression quelque part. Aucun juge ne s'est plaint de ce qu'il ne pouvait pas exercer son ministère parce que la pression ou qu'il n'était pas indépendant dans tout ce qu'il faisait comme activité ici.
Après le retrait des États-Unis, principaux contributeurs à hauteur $1 million chaque année, la CPS rencontre aujourd'hui des difficultés financières qui réduisent sa capacité d'action. Rolf Estève Domialeux, Bangui, RFI.
Les sports du football, c'est une quinzaine internationale studieuse et délocalisée en France qui a commencé pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Les Léopards effectuent en effet leur stage à Orléans, à 150 km au sud de Paris. Un rassemblement qui sera marqué par 2 matchs amicaux, demain jeudi contre le Mali et dimanche face à Madagascar. Une période idéale pour améliorer un peu la place du Congo dans la hiérarchie mondiale, Olga Massangou.
L'un des objectifs de ce stage pour Sébastien De Sabre, c'est d'améliorer la position de la RDC au classement FIFA.
On avait fait le choix de jouer contre 2 équipes africaines. Une qui était devant nous au classement FIFA, qui sera le Mali, et une autre qui sera Madagascar. Les équipes qui sont dans les 10 premières ou dans les 15 ou dans les 20 premières au classement FIFA choisissent des équipes qui sont également assez élevés au niveau du classement FIFA. Donc premier objectif, c'est déjà d'augmenter nos résultats pour augmenter notre classement FIFA.
Le sélectionneur des Léopards compte également profiter de ce rassemblement pour voir certains joueurs, parmi lesquels Pouloulou qui va porter pour la première fois le maillot des Léopards.
Travail et notamment sur ce stage-là pour encore voir certains joueurs, encore bonifier nos relations entre les joueurs pour essayer de s'améliorer, être prêt sur les dates du mois de septembre.
Si défensivement, l'équipe de la RDC est solide, en attaque, Sébastien De Sabre attend le déclic pour Simon Banza, Samuel Essende ou encore Cédric Wakambou en manque de réussite devant le but.
Si on prend les attaquants, celui je pense qui a marqué le plus souvent, c'est Fiston Mayele ou Mecha Keliak. Et on attend tous à un moment donné cet attaquant qui va prendre le lead en attaque.
Un stage important pour De Sabre et son staff dont les enseignements serviront pour les prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
14h48 à Paris. Marion Kazanov, les grands titres de ce mercredi 4 juin.
L'armée russe revendique la conquête d'un nouveau village dans la région de Soumy dans le nord-est, alors que Moscou et Kiev n'arrivent pas à se mettre d'accord sur d'éventuels pourparlers directs. Les conditions de paix de la Russie sont des ultimatums, réagit à l'instant le président ukrainien. La Bulgarie pourrait bientôt troquer sa monnaie, le lev, pour l'euro. L'Union européenne donne son feu vert pour que le pays entre dans la zone euro dès le 1er janvier prochain. Donald Trump durcit sa guerre commerciale. Le président américain a alourdi ses taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. Elles passent de 25 à 50%. Plus d'un million de pèlerins musulmans entament le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam, à la Mecque, en Arabie Saoudite, sous un soleil de plomb. L'Arabie Saoudite a durci ses contrôles pour éviter le drame de l'an dernier où 1300 personnes sont mortes sous des températures extrêmes, des personnes qui n'avaient pas eu de permis pour participer à ce pèlerinage. Et puis la natalité continue de chuter au Japon. Lyon, moins de 700 000 naissances l'an passé. C'est un nouveau plus bas historique dans le pays. On en parlait avec notre invité, le démographe Gilles Pison, il y a quelques minutes. Interview à réécouter sur notre site rfi.fr. Rendez-vous régulier de la vie publique, le dialogue national s'achève aujourd'hui au Sénégal. Plusieurs centaines de représentants des partis, de la société civile, des mouvements religieux, universitaires ont discuté des réformes du système politique. Avec en toile de fond la question du renforcement du fonctionnement démocratique de l'État, Moundiaye Cissé, président de l'ONG 3D et membre de la société civile, a participé à ce dialogue et il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Moundiaye Cissé.
Bonjour Nicolas.
Qu'est-ce qui était important selon vous dans cette semaine de dialogue? Certains avaient critiqué ce dialogue en disant que le Sénégal avait d'autres problèmes, d'autres urgences, notamment économiques.
Oui, bon, je crois que ceux qui ont critiqué le dialogue, c'est leur droit de le critiquer. Mais je pense que le fait de tenir un dialogue sur le système électoral, sur le système politique, n'exclut pas qu'il y ait d'autres dialogues sur les autres thématiques, les autres questions prioritaires. Il y a eu un dialogue sur la justice. Il y a un an, il y a ce dialogue-là sur le système politique. Rien n'exclut qu'il y ait un autre dialogue sur le système économique et pourquoi pas sur notre système de santé. Et bien d'autres thématiques.
On ne va pas toutes les citer, mais des recommandations qui émergent à l'issue de ces assises. Laquelle vous paraît la plus importante et pour quelles raisons?
Moi, je pense que la question du parrainage est importante parce que beaucoup de contestations préélectorales et post-électorales venaient du parrainage.
Qu'a-t-il été décidé? Qu'a-t-il été recommandé en ce qui concerne le parrainage?
Ce qui est recommandé aujourd'hui par rapport au parrainage, c'est vraiment son amélioration, c'est-à-dire l'opérationnalisation du parrainage. Donc, aujourd'hui, on a un consensus large sur la nécessité de numériser le parrainage de sorte qu'il y ait plus de doublons externes, objet de beaucoup de rejets. Parce que les doublons externes, c'est ce qui constitue la principale préoccupation des candidats. Aujourd'hui, avec sa numérisation, nous osons espérer qu'il n'y aura plus de doublons externes parce que le candidat qui met des parrains pourrait être informé si le parrain a déjà parrainé quelqu'un d'autre.
Donc là, on parle très concrètement, Moundiaye Cissé, des parrainages que les candidats à l'élection présidentielle doivent produire pour pouvoir se présenter.
Mais tout comme les candidats aux élections législatives, parce que le parrainage est maintenant, c'est au niveau de toutes les élections, le nouveau type d'élections, que ce soit la présidentielle, que ce soit également les législatives. L'autre pas important par rapport au parrainage, c'est le fait de dessaisir le Conseil constitutionnel du parrainage. Le Conseil constitutionnel s'occupait du parrainage et était à la fois donc juge et partie parce que le Conseil constitutionnel est l'organe où eh bien les acteurs politiques, les candidats pouvaient faire des recours. Mais en procédant au contrôle du parrainage, après ces décisions, donc il n'y avait pas possibilité de recours parce que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Aujourd'hui, il y a un consensus pour mettre en place un organe qui va s'occuper du parrainage, du contrôle et de la vérification du parrainage. Et en cas de désaccord, en cas de contestation, que le candidat puisse faire recours au niveau du Conseil constitutionnel.
Donc là, ces recommandations vous paraissent particulièrement importantes et pertinentes. A contrario, parmi les points qui n'ont pas fait consensus, lequel regrettez-vous?
Ce que je regrette, c'est la question sur la rationalisation des partis politiques. Je pense qu'on n'a pas eu... On est d'accord sur le principe, mais on n'est pas d'accord sur les modalités. Ça, c'est une...
Sur les moyens de parvenir à une réduction du nombre de partis politiques.
Je crois qu'il n'y a pas un accord précis. La question des cumuls également. On a eu un accord sur l'interdiction du cumul chef d'État, chef de parti, et du cumul chef ministre et président d'exécutif territorial, c'est-à-dire maire ou président de conseil départemental. Par contre, pour les autres cumuls, comme DG et directeur, DG et maire et autres, on n'a pas eu de consensus. Et donc, il y a la question aussi sur les libertés publiques. Il n'y a pas eu d'accord sur les articles 80 qui concernent
la suppression du délit d'offense au chef de l'État.
Et les articles 255 et suivants qui concernent les délits d'offense au chef de l'État, etc. Donc, on n'a pas pu... avoir un accord, on a renvoyé ça aux conclusions des assises de la justice.
Pour être tout à fait concret, aujourd'hui, ce sont des recommandations qui sont adoptées. L'an dernier, un dialogue national qui avait été organisé portait sur la justice et aucune des recommandations prises à l'issue de ce dialogue n'a encore été mise en œuvre. Est-ce que ça n'est pas un problème?
Oui, c'est un problème parce que ça fait un an. que les conclusions des assises de la justice sont déposées auprès du président de la République. Mais on nous a annoncé 5 projets de loi qui vont être adoptés prochainement à l'Assemblée nationale. Mais on piaffe d'impatience parce que on nous a annoncé le projet de loi mettant en place la Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel. On nous a annoncé un projet de loi instituant un juge des libertés et de la détention. Ce serait un pas important. On nous a annoncé également un projet de loi sur l'accès à l'information et un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Tout ça, c'était les conclusions des assises de la justice. Et un an, je pense que ça suffit. C'est un délai raisonnable pour mettre en œuvre et appliquer les conclusions de concertation. Dans un premier temps, on parlait de la nécessité d'avoir une majorité pour les mettre en œuvre. On pouvait comprendre. Mais après, depuis novembre, ils ont une majorité importante à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui,
il est temps de passer aux actes.
Il est temps de passer aux actes.
Merci Mounia Cissé. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. On se quitte en musique avec un artiste tunisien, Sofiane Ben Youssef, plus connu sous le nom de scène de Amar 808. Ce producteur de musique électronique vient de sortir Club Tounsi, son troisième album studio. Edmond Sadaka l'a écouté pour nous.
S'il réside au Danemark depuis plusieurs années, Sofiane Ben Youssef, alias Amar 808, reste très attaché au rythme traditionnel de son pays natal. Il le prouve sur ce disque où il marie avec bonheur ses sonorités aux boucles électroniques. Amar 808 explore sur les 8 plages du disque un genre folklorique appelé Mezoued, un style devenu très populaire après avoir été banni par les médias tunisiens dans les années 80.
Le Mezoued, c'est un exemple parfait des musiques qui partent des ghettos et qui deviennent une identité nationale. À un certain moment dans l'histoire de la Tunisie, il y a eu une grosse migration des villages, de la campagne vers Tunis pour des causes économiques. Et donc pas mal de musiques qui étaient populaires se sont rencontrées à Tunis et le Mezoued est né de ça. Maintenant, c'est complètement intégré dans toutes les régions.
Pour ce nouveau disque, Amar 808 a fait appel aux voix de 3 artistes tunisiens, dont fait partie la chanteuse lyrique Mariem Betouami.
Tounsi, le dernier album d'Amar 808. De cette édition réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Et vous revenez demain, Nicolas, dans 2 minutes sur RFI, selon votre zone d'écoute, le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'informations en full foodé ou bien en portugais. Restez avec nous sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain.
Seconde émission à Abuja, au Nigeria, à l'occasion du 5e congrès mondial sur la drépanocytose. Coup de projecteur sur la lutte contre cette maladie génétique en République démocratique du Congo. Véritable problème de santé publique pour les enfants congolais.
Priorité santé.
Avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce jeudi, vivez les demi-finales de la Ligue des Nations sur RFI
Cédric De Oliveira.
C'est le retour de l'équipe de France. Les Bleus de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé affrontent l'Espagne de Lamine Yamal pour une revanche du dernier Euro. L'an dernier, la Roja l'avait emporté. Sera-t-elle la plus forte encore une fois à Stuttgart, en Allemagne? Espagne-France, demi-finale de la Ligue des Nations. Rendez-vous ce jeudi sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette année, le Festival de la Charité sur Loire a rimé avec la Série Noire. En célébrant les 80 ans de la célèbre collection, à travers plusieurs rencontres autour d'auteurs phares comme Dashiell Hammett ou Hervé Prudhon, des moments forts à retrouver dans un grand reportage enregistré sur place.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.